La mort, cette fidèle et excellente amie. C'est de Mozart, une citation que reprend volontiers à son compte notre invité, Christiane Singer. Christiane Singer, troisième étape avec vous ce soir pour évoquer un thème que vous avez traité dans l'un de vos livres, les crises. Si je résume un peu votre pensée, la vie sans crise ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Je me trompe ?
Oh oui, c'est tout à fait ça. Vous imaginez si on était là d'un petit... si on traversait notre existence dans une petite satisfaction pépère et tranquille, comme beaucoup, hélas, le font. Il vaut mieux aller directement au musée Grévin, vous savez, c'est encore mieux, parce que là, il n'y a plus du tout de courant d'air, n'est-ce pas? Et non, c'est pas ce que la vie veut de nous. Hein. C'est pas de bien soigner notre petit masque, hein. Mais la vie ne nous lâchera pas jusqu'à ce que nous ayons arraché ce masque et que sous tous les visages se révèle notre vrai visage de vie et de transparence. Et c'est ça qui est fou. Quand on cesse de croire que tout ce qui nous a mis en cause, tout ce qui nous a ébranlé, tout ce qui nous a fait naufrage, tous les échecs que nous avons traversés sont des choses tristes dont nous avons à nous plaindre, et que nous voyons que ce sont des cadeaux successifs, souvent les coups de pied au derrière sont de prodigieux cadeaux, mais il y a évidemment, je sais que c'est très provocant de dire ça, il y a des désastres dans l'existence qui sont terribles, comme la perte d'un être aimé, des choses qui sont... C'est insoutenable ce que je vous dis. Hein. Mmh. Et pourtant, cela fonctionne ainsi, cela est ainsi. Par les déchirements les plus profonds, des êtres ont été réveillés à leur humanité véritable. Vous savez, j'ai tellement de contacts par le travail que je fais avec des personnes magnifiques qui ont eu des destins déchirants. Hein. On a parlé à l'instant de la perte d'un enfant. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus poignant, hein, que d'avoir transmis la vie, et cette vie que tu as transmise et reste sans fruit sur cette terre. C'est tellement déchirant, c'est insupportable. Et pourtant, ces enfants qui partent ont laissé un autre message. Et tant que je suis dans le désespoir, dans le déchirement, je ne peux pas entendre pourquoi ils sont partis, ce qu'ils veulent me dire, de quelle manière leur vie se poursuit avec leur départ. N'est-ce pas? Et j'ai à respecter l'existence de chacun, le destin de chacun. Ça, c'est un acte de responsabilité profonde, d'accepter que chacun ait eu le destin qu'il a eu. L'instant où je peux, où cette mère pourrait dire à son fils disparu, « Mon fils que j'ai tant aimé, je m'incline devant ce qui a été ton destin. Hein, tu as choisi de nous quitter à cet âge-là. » Malgré tout le désespoir que cela m'a coûté, je m'incline devant toi, c'est ma manière de t'honorer. Tant que je te veux autrement, tant que je veux que les choses se soient passées différemment, tant que je suis dans la rage, dans la colère, dans le désespoir, dans la révolte, je ne peux pas avoir accès à ce message. Hein. Mais évidemment, ne me faites pas dire de bêtises, le passage par le deuil est obligé, il peut durer des mois terrifiants, il peut durer des années terrifiantes. Cela n'est pas épargné à l'homme sur cette terre. Mais tout, les pires détresses débouchent sur un fruit. Ça, je peux oser le dire, et je vous assure que ça paraît provocant, hein, face à certains malheurs. Mais il n'y a rien sur cette terre qui n'ait pas son fruit.
Qu'est-ce qui se passe dans la crise? Il se passe à peu près ceci, qu'une voix s'adresse à vous et vous dit « Tu as construit une vie, oui, bravo. Eh bien, détruis-la. Tu as construit une personnalité, formidable, bravo. » Détruis-la. Tu t'es bien battu. Tu as été courageux. Un courage extraordinaire. Mais l'heure de la reddition est venue. À genoux. Ou encore, comme pour Abraham, tu as mis un fils au monde. Bravo. Rends-le-moi. Tous ces moments de l'intolérable, de l'inacceptable, qui, dans l'ordre des choses vécues, dans l'ordre de l'immédiat, sont le scandale absolu. Rends-moi ce que je t'ai donné.
Même au cœur de la vie la plus difficile en ce moment, ou la plus douloureuse, il y a de grandes plages, de grands espaces où le bonheur se promène. On a tellement tendance à croire, bon, moi je choisis, par exemple, on vous dira, moi je choisis la jeunesse, je ne veux pas entendre parler de la vieillesse, je choisis la santé, je ne veux pas entendre parler de la maladie, je choisis la vie, je ne veux pas entendre parler de la mort. Et bizarrement, en faisant ça, c'est ce qu'est en train de faire notre société, en élaguant tout ce qui ne lui plaît pas. Et qu'est-ce qui se passe ? L'autre versant n'a plus de qualité. En chassant, par exemple, la mort de nos consciences avec une férocité incroyable, comme si la mort était une défaite, eh bien, on est en train d'enlever la véritable qualité de la vie, de nous préserver si totalement qu'on va finir par vivre sous une enveloppe de nylon, vous voyez. C'est grotesque, c'est de l'ordre du grotesque. La vie est un risque permanent. Personne en est sorti vivant de cette aventure. Ça, je peux vous jurer. Et alors, vous comprenez, une fois qu'on a perçu ça, c'est évident. Je me rappelle une délicieuse blague que me racontait quelqu'un qui vient vers un médecin et qui dit « Docteur, est-ce que je vais mourir ?» Et le médecin lui dit « Mais bien entendu, monsieur, vous pouvez en être sûr. » Et c'est vraiment important de partir de là. C'est une aventure très passagère, mais prodigieuse. Mais si vous voulez vous préserver en permanence des dangers de microbes, des dangers de contamination, des dangers, vous vous préservez en permanence de la vraie vie, de la vie vivante. Vous voyez, c'est un risque permanent. Et c'est dans ce risque qu'il faut aller. Et si je veux élaguer une partie de l'univers, j'élague l'autre en même temps. J'enlève sa qualité à l'autre. C'est comme je ne peux pas payer mon café, vous voyez, avec un euro ou un franc suisse, en disant je garde la face ou pile pour moi et je paierai mon café demain avec l'autre face. Vous devez donner toute la pièce. Et c'est pareil. Le monde entier est construit sur ces autres versants. Il y a la santé, il y a la maladie, il y a la jeunesse, il y a la vieillesse, il y a la vie, la mort, il y a le matin, il y a le soir, il y a la lumière, il y a l'obscurité. Tout va ensemble. Et ce sont deux visages de la même réalité. Nous avons beaucoup dans notre modernité deux uniques issues. Soit nous disons, bon, j'avale la couleuvre, j'accepte cette horreur et puis voilà ce qui m'arrive, etc. Ou alors je m'indigne, je pousse des cris d'horreur, des cris d'indignation, ou bien refoulé ou défoulé. Or, il existe une troisième voie et elle est l'essentiel de ce que l'Extrême-Orient nous apporte. Il y a une manière de constater, bon, il m'arrive quelque chose de terrible, mais je ne suis pas tout entier engloutie dans ce qui m'arrive. Il y a une part de moi qui n'arrive ni du malheur ni du bonheur. Il y a une part de moi qui n'a pas raté l'autobus et qui ne prendra pas l'autobus qui va suivre. Il y a une part de moi qui est légèrement en deçà et qui contemple, comme le rêveur, vous savez, comme celui qui, au réveil, a rapporté le rêve. Qui est-il, celui qui m'a vu rêver, Il y a cette instance en nous qui dépasse les événements de notre biographie, qui est au-delà, qui voit, très souvent dans la journée, vous sentez, vous dites, ah, me voilà, ouïouïouï, la colère monte, ah, je connais ce sentiment, je connais cela. Et quand vous développez le pouvoir de cet observateur dans votre vie, vous n'êtes plus en permanence dans la réaction, vous voyez. D'accord. Il y a un tout petit espace interstitiel qui va être très créateur. Je ne sais pas, c'est quelque chose de très subtil, c'est très difficile de le transmettre uniquement par la parole. Il faut l'expérimenter. Un moment, une déception vous vient ou un être vous a blessé. Est-ce que je peux dire, ah voilà ma vieille blessure réanimée, au lieu de dire, ah quelle horreur, c'est horrible ce que tu viens de me faire, etc. Un instant, dire, oh, la plaie n'est donc pas fermée. Cet observateur qui va laisser une petite distance. Pour les portes, on dit, elles ont un jeu dans les charnières. Laissez un petit jeu. Ne pas tomber pieds et poings liés dans tout ce qui nous arrive. Et ça, je ne peux pas vous dire comme la vie devient délicieuse quand on est arrivé à mettre en place cette non-réaction. Bien entendu, il y a des situations très dramatiques, mais tout cela, vous voyez, sentez que c'est pas, je ne suis pas en train d'établir de nouveau de grandes théories ou de grandes lois, mais je vous dis, Observez cela 10 fois par jour, comme quelque chose vous agace, quelque chose vous indigne. Simplement un moment, au lieu de vous laisser complètement tomber dans cet agacement, dire « Ah, me revoilà agacée », avec un petit sourire sur vous-même. Hein? Et la vie en est changée, quand cet autre instant, et cet instant c'est le tiers, hein, c'est le tiers, c'est quelque chose qui va être aussi cette relation à la transcendance, c'est cette troisième dimension. Qui est non pas de fuir, non pas de réagir, mais cette instance qui dit « Ah, voilà !»
Christiane Singer, en préconisant ce petit recul à prendre face à quelque chose, à quelqu'un qui nous agresse, c'est aussi prendre conscience que nous ne sommes pas que victimes et que nous avons une responsabilité dans notre manière de réagir quand on est agressé.
Vous savez, nous ne ressentons comme agression que ce qui a juste heurté notre blessure à nous. Hein. Sinon, je me dirais, mais il va pas bien, ce bonhomme, le pauvre. Hein. Qu'est-ce qu'il a ? Peut-être qu'il a un clou dans son soulier ou je ne sais pas quoi, mais il va pas bien, mais je ne suis pas blessée. Ça me paraît tellement grotesque, cette attaque. Elle a tellement peu de rapport avec moi que je n'ai pas de lieu d'être blessée. Mais je réagis uniquement s'il a justement touché une blessure. Et c'est ce qui, en général, se passe dans les couples, parce que nous nous connaissons tellement bien que nous savons exactement quelles sont les places qui sont vulnérables. Hein. Et l'autre va attaquer jusqu'à ce qu'enfin nous guérissions cette plaie. Parce que, écoutez, moi j'ai un voisin chasseur qui me disait, parce que nous avons beaucoup de sangliers en ce moment dans notre région, et il me disait, je lui demandais si c'était dangereux maintenant de se promener dans la forêt. Il disait, non, un sanglier n'est pas dangereux, il n'est dangereux que lorsqu'il est blessé. Et je me suis dit, ah mais c'est fabuleux, c'est comme les hommes. Les hommes ne sont dangereux que lorsqu'ils sont blessés. Nous sommes dangereux les uns pour les autres. Parce que nous sommes de grands blessés de la vie. Alors, dès que quelqu'un vous effleure, c'est la surréaction. Hein. Donc, nous n'avons qu'un devoir sur cette terre, c'est de guérir de nos blessures, de les regarder, d'oser les regarder. Moi, je vis ça en permanence. L'autre jour, une dame m'a beaucoup agacée qui avait une réponse à tout dans un cercle d'amis. Elle savait tout sur tout. Puis je me dis, mais c'est pas possible, ça faisait longtemps que qu'elle... Mais bien entendu, c'est moi. C'était bien évidemment, elle m'a reflété la caricature de ce que je suis et de ce que me peuvent me reprocher des intimes d'avoir un avis sur tout. Et immédiatement, le rire qui me vient, dire quelle chance, je lui tombe autour du cou à cette dame. Elle m'a remis en contact avec ce qu'il y a de désagréable en moi, d'insupportable pour mes proches. Et c'est une chance. Elle m'a fait faire un travail colossal sans que j'aie à payer une leçon de thérapie. Vous voyez, c'est prodigieux. Et c'est nous nous faisons en permanence ces cadeaux, nous les êtres humains, en nous rencontrant les uns les autres. Dès qu'une personne vous blesse, sachez, elle est en train de vous refléter quelque chose sur quoi il s'agit de travailler. Et nos amis, nos frères tibétains, nous vont tellement plus loin. Moi, ça c'est aussi une perspective qui m'a bouleversée. Ils disent que les personnes qu'il y a le plus à honorer dans notre vie sont ceux et celles qui nous ont le plus fait souffrir. Parce qu'ils se sont mis à notre disposition pour faire sortir de nous, pour nous évider de cette colère, de cette rage, de cette impuissance. C'est eux nos accoucheurs d'ombre. Hein. Et je vous assure, considérer sa vie sous ce regard, waouh, quelle aventure.
Chacun d'entre nous est appelé à délivrer en lui ses bataillons de rancune, ses bataillons de ressentiment, de reproches larvés, à désamorcer la malédiction, la haine, la guerre qui l'habite. Arracher son garrot au silence, arracher son bâillon au silence. Tant que moi je ne délivre pas ma conscience d'homme, tant que je ne me confronte pas à mon ombre, la lumière est bannie de mon silence, irrémédiablement. Sachons donc rompre ce silence-là.
Vous venez d'entendre un extrait du « Bon usage des crises ». Ce livre est paru chez Albin Michel.